voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Camille Jusa rencontre Mathalie Crasset. Ce soir, le monde des objets.
Bonsoir Mathalie Crasset.
Bonsoir.
On poursuit ce soir notre conversation commencée lundi. Je rappelle que vous êtes designeuse. Vous dessinez depuis le début des années 90 des objets pour la vie de tous les jours. Fauteuils, poufs, lampes, verres. Mais aussi des objets nettement plus volumineux puisque vous menez également un travail de scénographe, notamment pour des expositions ou même récemment un concert. Vous êtes également à certaines heures architecte d'intérieur et même architecte tout court. Preuve s'il en est que le design, cette discipline aux contours qui peuvent paraître parfois flous, concerne à peu près tous les champs de notre vie. Hier, vous nous avez raconté vos toutes premières années de travail avec Philippe Stark au sein de l'entreprise Thomson Multimédia, pour qui vous avez dessiné des téléviseurs, des radios réveils et aiguisé votre œil et votre main autour de projets plutôt domestiques. Et puis en 98, vous avez fondé votre propre studio dans le 10e arrondissement à Paris. C'est ici que vous nous recevez. Nous sommes installés de part et d'autre d'une grande table, qui est le prototype d'une table que vous avez ensuite réalisée et dont on comprend qu'elle est divisée en plusieurs plateaux. Alors comme on va parler ce soir de votre rapport aux objets, ce que vous imaginez pour eux et surtout ce que vous imaginez pour nous avec eux, est-ce que vous pourriez nous décrire cette table et comment vous l'avez imaginée ?
Cette table, elle est assez simple et c'est une structure métal sur laquelle on va poser en fait des plateaux qui sont amovibles. Et donc le scénario, puisqu'il s'agit d'un scénario, c'est de pouvoir avoir des plateaux qui ne sont pas sur la table. Par exemple, on va avoir un plateau au niveau de la cuisine. On va préparer le repas et donc on va interchanger, on va mettre l'activité de manger en fait en simplement changeant le plateau. Donc c'est un travail sur la fluidité. Je me suis très vite aperçue en fait que en travaillant sur les objets, c'est un peu comme si on avait en fait on figeait les actions, alors que la vie en fait il y a un fil, elle est continue. C'est un peu comme si on regardait avec un magnétoscope un film et puis d'un seul coup on venait faire un arrêt sur image. Donc on fait hop on mange et après on relâche en fait on replaie le film et d'un seul coup hop on va l'arrêter pour faire le sofa. Et en fait qui s'intéresse à la vie qui est entre ces deux activités? C'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est de réfléchir sur ces interstices. Et c'est là, en fait, en quelque sorte, que le vécu aussi va se loger. Donc, c'est pourquoi, très, très rapidement, j'ai travaillé plutôt sous forme de scénario de vie. Donc, en fait, le projet se décrit par un scénario.
Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit l'objet qui détermine notre manière de vivre, mais plutôt, on part de la manière dont on vit pour faire des objets.
Voilà, on peut décrire en fait un système de possibles. J'ai oublié de préciser qu'on pouvait aussi transformer le plateau en étagère. Donc, on va faire en fait bouger comme ça plateau de la table. On peut donc occuper différemment l'espace et surtout y inscrire des activités différentes. Donc, c'est en fait la table devient une plateforme pour faire des choses, pour pouvoir passer d'une chose à l'autre. Et c'est ça qui m'intéresse, toujours cette tension avec l'idée d'agir en fluidité, en évolution et de faire en sorte que ces objets ils soient complices en fait dans notre quotidien pour pouvoir changer, imaginer des choses, etc.
Alors justement, en 99, vous avez l'idée d'un objet qui va devenir très emblématique de votre travail. Et en effet, c'est tout un scénario qui est même dans son nom même, hein, puisque cet objet, vous l'appelez « Quand Jim monte à Paris ». Oui. Alors moi, je le résume un peu bêtement comme un lit d'appoint. Oui. En fait, c'est un peu plus que ça. Vous l'appelez même une colonne d'hospitalité. Qu'est-ce que c'est que cet objet ? Parce qu'il y a toute une histoire.
Cet objet, en fait, c'est aussi la première pièce de mobilier que j'ai faite. Et en fait, ça a été un objet test, c'est-à-dire que je voulais appliquer ma démarche en fait sur le mobilier. À l'ENSI, on fait du projet industriel et donc on faisait du projet industriel et donc le mobilier, c'est des séries qui sont moyennes, c'était pas considéré vraiment comme un objet industriel. Donc j'avais jamais fait de mobilier à l'école et ma façon de faire, ça a été de dire je veux travailler sur l'hospitalité. quelle tête peut avoir l'hospitalité dans une maison. Je travaille sur un objet qui va se condenser pour prendre très peu de place. Et donc, la meilleure façon de prendre très peu de place, c'est peut-être une colonne, puisque ça va avoir 35 cm sur 35 cm d'emprise au sol, en vertical. Et puis, quand ce fameux gym arrive à la maison, on a des apparts, en fait, qui, quelquefois, ne permettent pas d'avoir des chambres d'amis. Mais par contre, je vais pouvoir lui offrir un espace spécifique. Je vais ouvrir... pivoter en fait la colonne, la déployer et dedans on va découvrir un matelas. Et donc ça me permet de créer l'espace et de pouvoir l'accompagner avec une petite intention puisqu'on a une petite lampe aussi et un réveil matin pour lui donner son autonomie. Voilà, donc c'était comment un objet nous permet de faire à nouveau un geste d'hospitalité. Donc ça veut dire que c'est pas non plus un type de design qui est un design total. Ce sont des petites intentions comme ça qu'on peut rajouter par rapport à son équipement actuel. À son intérieur actuel. Et ça, c'est très important parce que je pense qu'on peut aussi agir comme ça et redonner envie aux gens de choisir des projets qui sont plus engagés dans leur intérieur qui a été fait, en fait, avec d'autres principes.
Jim, il existe vraiment ?
Jim, il n'existe pas vraiment, non. Le gym, il n'existe pas, mais le...
Mais vous avez des amis.
Mais j'ai beaucoup d'amis qui viennent se poser et qui arrivent à Paris.
Quand Jim monte à Paris, cette colonne d'hospitalité, elle va avoir un grand succès.
Va avoir un rôle important parce qu'en fait, je me dis, c'est un test. Si les gens aiment, je continue à faire du mobilier. Sinon, je vais continuer à faire du projet industriel plutôt. Et je vais à Milan la montrer avec les deux éditeurs qui me suivent dans l'aventure.
Domo et Pérez.
Et donc, on part en voiture. C'est une vraie aventure, justement. Et on va montrer ce projet au premier salon satellite à Milan. Et là, se passe un truc un peu incroyable. Les gens passent et sourient. Donc déjà, c'est énorme. Et plus que ça, plusieurs personnes arrivent et me serrent la main, vraiment cordialement. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me rappellent cette première présentation de Jim. Et donc, j'ai eu la confirmation que ça pouvait avoir sens pour les gens. Et que ça... Alors, c'était complètement extraterrestre parce que ça n'a pas de forme, en fait. C'est ça. Et notre façon de parler de design en France, c'est plutôt autour de l'élégance. Et donc, c'était complètement atypique. Mais moi, j'étais persuadée du fait que c'était, en fait, la direction qu'il fallait suivre.
Et en effet, il y a ce petit réveil matin et puis une petite lampe de chevet. Donc on ne s'arrête pas juste à l'objet.
On traite l'espace. Et c'est pour ça que très rapidement, après, on m'a proposé de faire des espaces aussi. Parce que déjà dans l'objet, je considère l'espace, bien sûr.
Quand on regarde la liste des objets que vous allez créer dans les années qui suivent, d'abord, c'est assez vertigineux hein, parce que... Il y en a énormément. Vous travaillez pour beaucoup de marques, mais vous travaillez pour vous aussi. Et il y a sans cesse l'idée d'un détournement. Hein. Là, il y a un fauteuil qui est aussi porte-revue. Il y a un tabouret qui se transforme en matelas pour la sieste, hein, que vous avez appelé Théo de 2 à 3. C'est comme si à chaque fois vous éclatiez les fonctions hein, qu'on attribue aux objets domestiques.
Oui, c'est pas forcément éclaté, c'est plutôt réinventé. Ça dépend un petit peu des projets. C'est toujours faire ce pas de côté pour se dire, en fait, il y a eu une complexité superficielle qui a été installée autour de l'objet. Moi, j'essaie de la retirer pour retrouver l'essence même de l'objet et surtout essayer de me rapprocher de ces rituels dont je parlais avant. Et en fait, j'aime assez la définition, par exemple, de Marc Auger qui dit que le design, c'est de l'anthropologie appliquée. Je suis très, 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 convaincue de cette idée que en regardant comment on vit, on peut, en fait, proposer des structures, des objets, en fait, qui font sens avec ce vécu. Et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup voyager, parce que je peux faire une comparaison, voyez, assez simple de la façon dont on vit à d'autres endroits du globe, et que ça va enrichir, en fait, mes prises de position à travers le projet. Donc en fait, dessiner, pour moi, ça n'a jamais été faire une forme. Je vais d'abord passer énormément de temps à réfléchir. Et donc c'est vrai que quand on imagine un designer, on a l'impression qu'il dessine, et certains le font d'ailleurs, hein, pour trouver une forme. Et ce n'est pas du tout ma façon de faire. Moi, je vais essayer plutôt de réfléchir. On est dans des contextes qui sont très complexes, en fait. Donc, il faut déjà arriver à voir dans quel contexte on est. Et puis après, de trouver cette intention qui va faire sens, en fait, la direction. Et donc, je vais me faire une représentation mentale. Et à ce moment-là, je vais commencer à la faire bouger, à voir si ça fonctionne, à voir quel type de vécu elle propose, parce que c'est ça qui m'intéresse. Et je vais dormir, parce que c'est important. Et le lendemain matin, si je trouve que l'idée est encore intéressante, et surtout qu'elle vient me parler là, c'est-à-dire qu'il y a une tension qui se crée ici au niveau du centre de mon corps, ça veut dire qu'on peut la sortir, qu'on peut enfin la faire exister sous forme d'un croquis que je vais pour communiquer avec les autres et pouvoir l'expliquer. Et après, utiliser tous les outils qu'on a en design industriel pour la représenter.
Et d'ailleurs, là, dans cette pièce, il y a un canapé. Oui. Mais c'est un objet qui est entré très tard dans votre maison.
Oui.
Le canapé, ça cristallise beaucoup de choses chez vous, Nathalie Crasset.
J'ai très rapidement pas voulu dessiner de canapé parce que je savais que c'était pas le bon objet. Tout le monde a 99%, je sais pas, des gens ont un canapé chez eux. Mais en même temps, je pensais que ça prenait énormément de place, que c'est un objet qui a été détourné de sa fonction première, qui est l'idée de recevoir, de discuter avec les autres, puisque maintenant c'est un vis-à-vis avec la télé. Donc voilà. Une espèce d'évolution comme ça qui est incontrôlée. Et surtout, c'est un objet de statut. Donc, on va acheter le canapé en cuir pour émerveiller le voisin. Et donc, symboliquement, le premier canapé que j'ai fait, je le découpe en morceaux pour le proposer justement aux enfants, pour qu'ils puissent en faire un jeu de construction chaque jour différent. Mais leur proposer aussi de le ranger sous forme d'un canapé, de façon à pouvoir utiliser ce canapé comme on l'utilise, c'est-à-dire 2 heures par jour et pas plus. Voilà. Donc c'est ce genre de démarche qui m'intéresse, c'est de revoir les choses, de reposer un peu une perspective différente et quelque part de casser nos codes qui sont très 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 rigides en ce qui concerne la façon dont on vit à l'intérieur de la maison. Et je me dis, est-ce qu'on a mérité tout ça? Je pense pas. Je pense qu'on mérite d'autres structures et qu'il convient juste d'y penser et de les changer. Donc je me suis refusée de faire des canapés tels qu'on les connaît et en fait petit à petit au fur et à mesure, toujours en refusant le canapé statutaire bien esthétique, j'arrive à en faire une plateforme comme celui qu'on a tout près de nous qui en fait est constitué de coussins longs qu'on va ouvrir et qui vont permettre d'en faire une chaise longue ou de l'ouvrir complètement pour en faire un lit. Donc toujours cette idée de proposer plusieurs vécus sur le même objet.
Vous parliez d'anthropologie. Une de vos influences pour réfléchir à la vie des objets, c'est Georges Perec.
Oui, ça a été un peu une découverte à l'école. J'ai beaucoup aimé la vie mode d'emploi. Je me suis vraiment imprégnée de Georges Perec, de sa sensibilité aussi, et puis de sa façon simple de poser un regard. Et ça, c'est important pour quand on est designer et savoir analyser, bien sûr, aussi ce qui se joue, en fait, autour de nous. Et voilà, donc ça vient en effet de Georges Perec.
Ça veut dire
mais
que...
aussi Jean Baudrillard, enfin beaucoup de avec la poétique de l'espace, bien sûr. Voilà, il y a bien sûr des gens qui ont compté dans le développement de ma démarche, puisqu'ils étaient vraiment en résonance avec cette démarche qui est en train de se construire à l'école.
Ça veut dire que dans l'objet, il n'y a pas que l'usage, il y a la fonction, il y a l'usage, mais il y a aussi une forme de sémiologie, tout ce qu'on y met, ce que vous disiez sur
bien
le canapé, le statut, etc.
Oui, et en même temps, on n'en parle pas trop, mais c'est ça l'essence, en fait, de l'objet. Et c'est ce qui fait que notre métier est très compliqué, parce qu'on a plein de couches différentes. Et en fait, il faut trouver une forme, une direction générale pour arriver, en fait, à répondre à un champ artistique, à un champ programmatique, qu'est-ce qu'on y fait avec cet objet, hein, un champ social, un champ écologique, voilà. Et tout ça, autour d'une même direction. Donc ça demande un peu de désarticulation, ça demande de la pensée, comme je le disais, avant d'arriver à trouver quelque chose qui fait évidence, en fait. Parce que quand on commence, en fait, ce métier, on peut avoir des bonnes intentions, mais on arrive avec des usines à gaz, en final. Hein. Donc l'expérience fait qu'à un moment donné, ça devient beaucoup plus fluide et l'évidence gagne, en fait, en expression.
Dans le design, il y a aussi cette tension assez particulière parce que, par exemple, si on dit d'un objet qu'il est design, on voit bien hein, tout ce qu'il peut y avoir d'une recherche formelle, esthétique. Et tout de suite, quand on dit c'est design, on associe ça à des objets singuliers, un peu chers. Or, vous êtes plutôt inspiré par des gens comme Joe Colombo qui, eux, vont plutôt dire que non, le style, c'est antithétique avec le design.
Oui.
C'est un designer italien qui va inventer même la notion d'anti-design.
D'anti-design, oui. Il a travaillé sur les typologies, et c'est ce que j'aime beaucoup, en fait. C'est de reconstruire les choses autour de nouvelles typologies. Et il avait capté cette grande différence, en fait, de ne pas s'attacher à la forme, et de s'attacher aux articulations, à la façon de générer l'espace, parce que le vécu, justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est quel type d'interaction entre les gens va être générée justement par la configuration. Et ça, je pense que ça, il y a une conséquence qui se joue.
Mais alors, du coup, c'est quoi un bel objet pour vous, Mathalie Crasset?
C'est pas vraiment. C'est pas vraiment une question que je me pose, justement.
Parce que ici, il y a des objets qui ne sont pas seulement les vôtres, ceux que vous
oui,
avez
bien
dessinés.
Sûr.
J'imagine que vous les trouvez beaux.
Ils sont là, non, pas du tout. Ils sont là parce qu'ils représentent quelque chose dans ma compréhension de ce qu'est le design, justement. Il y a des objets, par exemple, de Nana Ditzel, qui est une designer danoise, qui, elle, a très vite compris. Par exemple, elle a fait un constat assez simple. Elle rentrait chez elle et elle disait « Mais c'est quoi tous ces pieds ?» Et hop, elle a coupé tous les pieds. Et donc, c'était dans les années 70. Hein, et à l'époque, on avait aussi beaucoup plus facilement la capacité de proposer aux gens d'avoir une informalité qu'on n'a plus du tout aujourd'hui. On a oublié ça. Et donc, elle a proposé plutôt des espaces avec un gradin et ces fameux restes de coussins, enfin voilà, d'assises. Et j'avais trouvé ça très, très, très intéressant. Donc, c'est toujours, en fait, en quelque sorte, des nouvelles typologies. Un travail autour des nouvelles typologies.
Ça vous agace, ces espaces dans lesquels on vit, les meubles qu'on nous impose? Il y a quelque chose comme ça, vous voudriez que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup moins figé?
Oui, il y a une notion de fluidité qui est importante. C'est pour ça que je déteste la table basse. Le canapé, certes, mais la table basse, encore pire, parce qu'elle fige énormément. Et quand on vient souvent me demander des conseils, je dis « Retirez déjà la table basse, prenez un plateau posé et vous verrez déjà. » Et du coup, c'est pas tant l'idée de fluidité, c'est aussi l'idée d'activité, en fait. Je perçois, en fait, l'intérieur. Et ça, c'est très, très, très rapidement venu dans mon travail, parce que je suis consciente qu'en fait, si on n'est pas actif chez soi, ben on va pas l'être non plus avec son voisin, on va pas l'être avec son quartier, etc. Et donc, je pense que c'est là, sur l'intérieur, qu'il faut agir si on veut un tant soit peu que les gens redeviennent responsables, reprennent part. Voilà. Et c'est très important, le domestique, en fait, puisque c'est notre endroit de repli. Hein. Mais en même temps, c'est ce qui nous permet de repartir plus fort, vous voyez, à l'extérieur, etc. Et cette maison cocon qu'on nous a vendue dans les années 80 a fait énormément de mal, puisqu'en fait, ça a permis de cloisonner plutôt les maisons dans un hyper confort qui est pas bon, hein, et en même temps c'est très simple. Après, on fait plus venir le voisin, hein, puisqu'on est dans son cocon, on le ferme, etc. Donc c'est complètement contradictoire avec cette idée d'être responsable, citoyen quelque part. C'est aussi lié à ça, hein, actif, de faire ses propres choix. On a aussi beaucoup trop fait penser que les gens n'étaient pas capables de choisir eux-mêmes. Et ça, c'est pareil pour la couleur, on n'en a pas parlé, mais pour moi, la couleur, c'est la vie, et la vie, c'est la couleur. Et donc, je pense que la couleur, c'est un bonheur de travailler avec la couleur. Quand on est petit, on aime des couleurs, et puis d'un seul coup, on s'interdit parce qu'on nous dit qu'il y a du bon goût, du mauvais goût, et donc on n'est plus sachant de la couleur, et c'est une hérésie, parce que la couleur, c'est quelque chose qu'on devrait travailler avec bonheur tout au long de sa vie, en sophistiquant, en faisant des ajouts, vous voyez, en la faisant évoluer, cette couleur, qui fait que chacun d'entre nous pourrait avoir un appartement complètement différent, singulier, mais qui soit le sien, et qui soit pas, au contraire, une espèce de diktat qu'on nous donne à travers les magazines, et surtout en ce moment où en fait tous les appartements deviennent des espèces d'appartements Airbnb prêts à l'emploi pour être loués aux visiteurs parisiens, vous voyez. On arrive dans des espèces d'extrêmes qui sont un peu inquiétantes.
À quel moment justement ça intervient, la couleur, dans votre travail? Parce que vraiment, en effet, là vous parlez de l'importance du mouvement, que tout soit toujours en mouvement, qu'on puisse transformer les objets, etc. Et puis il y a la couleur qui est fondamentale dans votre travail. À quel moment vous la pensez?
Alors je la pense je la pense assez rapidement, parce que je ne peux pas m'appuyer sur la forme. Déjà, la forme, elle demande une interprétation. Donc, en fonction de sa culture, on ne va pas lire la même chose. Donc, je ne peux pas m'appuyer là-dessus. Donc, c'est pour ça que je m'appuie sur le rituel. Par contre, avec la couleur, c'est quelque chose de beaucoup plus instinctif et qui va aller directement parler aux gens. Donc, je peux m'appuyer sur la couleur et je peux complètement retirer une structure d'un appartement, par exemple, et avec la couleur, redonner des pistes. Si c'est bleu, ça va être un espace ici. Expanse, des choses très simples comme ça, et bien sûr avec de la symbolique. Donc la couleur est une alliée pour moi. Elle m'aide en fait à décomposer et à recomposer de façon différente, et ça devient une espèce de mode d'emploi assez facile à utiliser pour tendre des perches de compréhension de cette nouvelle logique que j'essaie d'installer à l'intérieur de l'espace, par exemple.
Dès 2000-2001, vous êtes très vite acheté par les musées. Vous rentrez dans un centre de collection publique, vous rentrez au Fonds national d'art contemporain, aux arts décoratifs, le Centre Pompidou vous achète, le MoMA à New York aussi. Et puis, on vous propose d'exposer vos objets. Alors d'abord dans des salons, mais aussi ensuite à la galerie Tadeusz Ropak. Vous avez fait 3 expositions depuis 2007. Parce que pour un designer, c'est pas forcément évident de franchir les portes d'une galerie d'art. Et comment on expose un objet, voilà, surtout avec
votre
démarche?
Alors, c'est pas vraiment des objets que je présente d'abord dans la galerie Ropak. Alors, c'est un contexte un peu particulier. J'ai été invitée par Peter Halley, en fait, à faire une expo collective.
Qui est donc un peintre.
Qui est un peintre new-yorkais. Et en fait, j'étais allée à New York. Il m'avait interviewée. Il avait à l'époque un magazine qui s'appelait Index. Très, très... un projet très, très, très culturel, et on avait bien sympathisé. Et donc, il m'a proposé de faire une exposition en commun. J'étais très, très impressionnée. Vous pouvez imaginer, j'ai pas du tout la renommée de Peter Halley. Et voilà, comment arriver à construire quelque chose ensemble dans l'espace de la galerie. Et donc, son travail est très coloré. Il fait ses structures... qui sont, on appelle des cellules, en fait, avec des couleurs très, très fortes, qui sont des espaces mentaux, en fait. Et donc, moi, j'ai décidé d'aller complètement dans l'opposé, de travailler avec de la craie, quelque chose d'éphémère, et de reprendre un peu ce geste du maçon qui va, en fait, délimiter l'espace à 1 mètre, voilà, de se donner un repère, et en fait, en faire comme ça une espèce de dessin abstrait, hein, qui a continué aussi sa peinture, parce que c'est essentiellement fait aussi avec des formes abstraites, mais en même temps donner l'idée d'expanser autour l'espace, et avec quelque chose de complètement éphémère, un peu flou, parce que quand on fait en fait ce rebond du fil sur le mur, en fait on a un effet de dégradé qui est assez beau. Voilà, donc ça a été la première salle. Et puis dans la deuxième salle, on a fait en fait l'inverse, et là j'ai construit un projet qui s'appelle Nature morte à habiter, où là je me posais la question de qu'est-ce qu'un designer justement peut présenter dans le cadre d'une galerie d'art. Et ce sont des objets qui peuvent être vus à la fois comme des objets fonctionnels, donc on peut s'asseoir dessus,
du mobilier,
mais c'est aussi des objets qu'on peut lire aussi comme une sculpture. Donc essayer d'être juste à la frontière. Et en fait, c'est en quelque sorte son intérêt ou son bagage qui va nous le faire lire d'un côté ou de l'autre. Et ça, c'est intéressant. Et c'est un peu dans cette veine-là que j'ai continué à, à faire des projets après toute seule au sein de la galerie Ropac, et notamment avec un projet que j'ai beaucoup aimé, le voyage en Uchronie, qui là est un projet de recherche, parce qu'en fait, dans ces cadres d'exposition en galerie d'art, on a beaucoup plus de liberté, et donc je peux, moi j'envisage pas justement d'exposer des choses qu'on peut par ailleurs acheter dans les magasins, c'est pas fait pour ça, et j'ai jamais fait ça dans un musée non plus. Je pense qu'on a ce devoir de questionner, de défricher, d'apporter des installations, peu importe la forme, mais et là, en l'occurrence, c'est cette idée de travailler sur cette idée de communauté. Donc, j'ai travaillé sur une petite communauté imaginaire qui est formée, là encore, de structures très simples, un peu comme un pourtour qui donne une présence humaine qui est debout, assise, allongée, donc assez simplement, et qui forme en quelque sorte un petit village, alors qu'on a que des présences en fait humaines. Et en parallèle, en travaillant sur un film pour faire vivre cette communauté, un film assez expérimental, très expérimental, pour faire vivre en fait cette communauté dans un endroit, dans une forêt, etc., et inventer des rituels. Donc là, cette fois-ci, donner toute liberté à mon imaginaire de s'exprimer, avec Yuli Suzin, qui est un ami artiste.
Parce que pour vous, il est... Enfin, on l'imagine bien, hein, après ce que vous nous racontez sur votre rapport aux objets, il est hors de question d'exposer juste une chaise. Enfin, ce qu'on peut voir d'ailleurs aujourd'hui avec les chaises de Jean Prouvé ou qui rentrent dans les galeries d'art. Oui. Ça, c'est
moi,
tout
je
dépends
la biche, donc je vois pas comment on peut montrer. C'est pour ça que je peux pas montrer un objet seul sans cette capacité de d'accueillir la vie. Je trouve que c'est lui retirer sa fonction. Ça ne représente pas ce que je défends dans le design.
Vous aviez d'ailleurs travaillé sur une chaise de Jean Prouvé pour justement détourner cette fétichisation de l'objet.
La Source organise en fait pour lever des fonds et proposer des animations dans les écoles, une vente aux enchères où on part en fait d'un objet existant qui est industrialisé, donc qui est produit, et on doit le transformer. Et donc j'ai travaillé autour de la chaise de Jean Prouvé en y associant en fait dessous, cachée entre les quatre jambes, comme protégée, une petite maquette de la maison qu'il avait proposée à l'abbé Pierre suite à cette fameux hiver très très froid, et qui s'appelle en fait, si je me souviens bien, la maison des jours meilleurs. Et donc mon geste, c'était simplement de rappeler en fait qu'on connaît aujourd'hui beaucoup l'œuvre de Jean Prouvé à travers son mobilier, qu'il avait d'ailleurs fait plutôt pour des écoles et qui se retrouve aujourd'hui essentiellement plutôt dans les galeries, et de remettre aussi ses intentions premières en fait au centre du projet, pour qu'on puisse avoir accès aussi à ce côté-là de la personne. Et ça, c'est pour moi très important.
Quand vous dites « j'étais sur le fil quand j'ai travaillé avec Peter Halley, avec ce peintre new-yorkais », ça veut dire que pour vous, le design, c'est de l'art quand même ? On peut dire ça ?
Oui, il y a une composante artistique très forte. Justement, c'est un peu un curseur. On peut, en fonction des projets, mettre un peu plus de tous ces ingrédients qui font partie de l'objet. On doit savoir, en fait, en quelque sorte, juger d'un mélange, en fait. Alors, est-ce qu'on met plus d'artistique dans ce projet-là, en fonction du contexte, en fonction de l'intention qu'on a ? Et voilà, c'est quelque chose qui se décide, en fait, avec l'intention du projet.
On a compris, Mathalie Crasset, que votre travail n'est donc pas un travail figé, que vous refusez la forme pure et que votre démarche tient plus du mouvement, de l'hypothèse et pas tellement de principes fermés. Donc on n'est pas étonné de savoir que vous avez élargi le champ de votre travail à la scénographie, à l'architecture d'intérieur et à l'architecture tout court. Et c'est de ça dont on va parler demain soir ensemble. Merci beaucoup, Mathalie Crasset.
Merci.
Et à demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Camille Jusa avec Mathalie Crasset. À voix nue, réalisation Ghislaine David, prise de son Arthur Gerbeau, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.